Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, à la matinale, nous allons parler encore une fois des élections municipales de Compiègne. J'ai un invité avec moi, je vous en parle juste après le générique. Ce matin, mon invité est Bruno Guillemin, candidat aux élections municipales sur la liste Pacte avec Daniel Leca. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne, re-bienvenue puisque vous avez réalisé il y a quelques années une émission qui s'appelait Un pas de côté, qui était une émission solidaire et décroissante.
Oui, c'est vrai, c'était avec grand plaisir. Le temps m'a manqué un petit peu ensuite pour continuer, mais c'est vrai que c'était très agréable.
Militant écologiste, aujourd'hui vous rejoignez la liste PAC, qui est une liste portée par un candidat UDI. Comment ça se passe quand on est un militant Europe Écologie Les Verts, alors que le parti avait dit pas de pacte, justement, pas de mélange avec les partis plus à droite que le PS?
Oui, alors... c'est vrai qu'il y a une motion nationale qui a été votée par ELV, donc interdisant aux militants, enfin aux adhérents d'ELV, de s'associer à une liste comme celle-là. Alors ce qui s'est passé, c'est que, il faut expliquer, bon, si j'ai quelques instants pour expliquer le contexte. Après les élections européennes, qui ont donné un fort pourcentage à Europe Écologie Les Verts, on a vu arriver un certain nombre de gens qui ont fait les 12 yeux à Europe Écologie, parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait des voix à récupérer, et puis l'écologie est quand même dans l'air du temps. Donc, il faut dire que quand même, chez Europe Écologie, on a été un peu choqués et on s'est un peu méfiés de ce ralliement ou de ces gens qui nous faisaient les 12 yeux pour venir nous chercher, d'où cette motion qui était en plus menée un peu par les gens les plus radicaux au sein de ELV. Donc, je comprends très bien que cette motion ait été votée. Je regrette simplement qu'au point de vue régional, que sur le plan régional, il n'y ait pas eu des possibilités d'aménagement selon les contextes locaux. Maintenant, c'est comme ça, c'est une motion nationale. Donc en fait, ce qu'on nous a demandé, c'est que les gens, les militants ELV qui souhaitaient s'engager malgré tout sur des listes bon, qui ne seraient pas évidemment d'extrême droite, on nous a demandé de ne pas mettre en avant notre étiquette ELV et de se présenter simplement comme militants écologistes, ce que nous avons fait, mes amis et moi-même.
Du coup, il y a une discussion chez Europe Écologie Les Verts, il y a pour la ligne nationale, ils sont venus vous voir, vous avez discuté avec eux sur ce genre de projet en national. Est-ce que la ligne pourrait changer dans les années à venir?
Non, heureusement, le national ne se mêle pas à ce point des affaires locales. Il y a le régional, avec qui moi j'ai eu des discussions tout à fait claires, sincères. Pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, vous savez très bien qu'au niveau des élections municipales, il y a certaines listes, heureusement, des listes purement ELV. Il y a plein d'endroits où le contexte fait que c'est comme pour nous. Il y a des gens d'ELV qui ont mis de côté leur étiquette et qui sont des écologistes. Donc je pense qu'on verra en fonction... Et puis il va y avoir aussi la préparation des élections présidentielles. Avant, il y aura
les
départementales. Donc je pense que tout ça, il y aura des aménagements. C'est vrai que, comme dans tout parti... Il y a des lignes qui sont plutôt ouvertes, des lignes plus radicales. Pour l'instant, c'est vrai que la tendance radicale était mise en avant, parce que cet élan de répécologie, en plus, a donné des ailes aux éléments les plus verts, on va dire, les plus enthousiastes de chez ELV, en disant ben, « c'est nous avant tout, et pas question que des ralliements se fassent au dernier moment », ce qui est compréhensible aussi.
Et des expériences ont plutôt bien marché, notamment, par exemple, avec Besançon, ville de Besançon, voilà.
Bien sûr, il y a des endroits... Bah, de toute façon, j'ai participé aux journées d'été, aux dernières journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Il y avait beaucoup d'enthousiasme autour des témoignages de Jean-François Caron à Los Angeles, d'Éric Piolle à Grenoble. Là, ce sont vraiment des exemples qu'on aimerait tous avoir dans nos villes. Ce qu'il y a, c'est que le contexte local en Picardie fait que nous sommes une région de terres agricoles, de grandes cultures, de passage aussi, qui fait qu'on a peu de militants inscrits et que pour en revenir au contexte local, il n'aurait pas été envisageable, ça aurait été très compliqué de monter une liste. Parce que bien sûr, tout militant d'ELV souhaite monter une liste ELV pure dans sa commune. Mais dans notre cas, avec, je ne sais pas, quelques 90 ou 100 inscrits en Picardie, le contexte de Compiègnois aurait été quand même très difficile à manipuler. Il faut de l'argent, le parti n'a pas beaucoup d'argent et ne peut pas aider les candidats locaux. Donc en fait, le contexte ne se prête pas au montage d'une liste élevée. Il y a pas mal d'endroits qui sont comme ça.
Aujourd'hui, le sujet écologique est plutôt un sujet transversal, justement transparti, même en Allemagne, puisque même l'extrême droite s'est alliée avec les écologistes, comme quoi on peut même faire la bascule avec l'extrême droite. Là, c'est plutôt, en plus de ça, plutôt efficace, puisque consommer local, etc. Voilà, c'est la rhétorique est plutôt facile. Comment ça se passe dans le Compiénois ? Comment on arrive ? Comment Daniel Leca a fait pencher la balance vers son camp ?
Alors, bon, d'abord parce que, à nouveau, revenons au contexte local. C'est vrai que traditionnellement, l'écologie est plus proche de la gauche que de la droite. Ça, c'est un fait, on va dire, historique, même s'il y a eu des écologistes comme Wächter, Antoine Wächter, qui était, lui, c'était ni droite ni gauche, et quand même était plutôt à droite. Donc, on va dire que globalement, depuis quand même au moins une vingtaine d'années, l'écologie, elle est plus proche de la gauche, en général, pour différentes raisons. Alors, à Compiègne, le contexte local fait que pratiquement les socialistes n'existent plus. C'est peut-être pas très gentil pour mes amis socialistes, mais c'est vrai qu'en quelques années, la présence du parti a quasiment...
En tout cas, l'opposition n'a pas sa voix au conseil municipal.
L'opposition n'a pas sa voix au conseil municipal. Laurence Rossignol, qui était l'opposant traditionnel socialiste de M. Marigny, n'est plus sur place. Il y a eu des remplaçants comme Richard Valente, mais qui n'avaient peut-être pas assez d'entre-gens ou n'étaient pas assez connus. Ce qui fait qu'en fait, la place était libre à Compiègne. Alors peut-être il y a une extrême gauche, je crois qu'il y a une liste Hello qui s'est montée, mais in extremis. Donc en fait...
Comme tous les ans, Jean-Marc Isquin...
Voilà, c'est très bien, c'est parfait, c'est la démocratie. Hein. Mais en gros, la place qu'il y avait au centre-droit et on va dire au début de la gauche était relativement libre pour une liste qui soit une liste d'union. Et d'ailleurs, la preuve, elle est d'autant plus une liste d'union que notre ami Solange Dumais et notre ami également Olivier Coval, qui ont été des opposants traditionnels, historiques de M. Marigny, qui tous deux faisaient partie du Parti Socialiste, se sont assez vite rapprochés de Daniel Leca. Et moi, nos amis écologistes ont été contactés un peu par ce biais-là. Et nous, on a trouvé intéressante la démarche, au moins d'aller à la rencontre de Daniel Leca et de ses proches.
Pacte, ça veut dire préparons l'avenir de Compiègne tous ensemble. Alors hier, il y a eu la présentation, enfin avant-hier, pardon, il y a eu la présentation de la liste. On a pas du tout parlé des étiquettes politiques. Enfin, vous n'avez pas du tout parlé des étiquettes politiques. Ils ont été totalement pas du tout mis en avant, mis de côté plutôt. C'est vraiment le cas au quotidien dans la liste ou est-ce que vous avez des affinités avec certains candidats et d'autres moins ? Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un agriculteur, alors justement il a fait une petite blague que quand il est rentré dans la liste, il a dit souvent avec les écologistes on se frite. Là, c'est pas le cas, on travaille ensemble.
Oui, Geoffroy Devry, oui, moi j'ai eu plusieurs fois des conversations intéressantes, même encore il y a 3-4 jours, on a parlé de produits de traitement, glyphosate et compagnie. C'est vraiment intéressant. Ça ne sert à rien de s'exclure. C'est pas la peine qu'on soit au sein d'une liste ou même il faut discuter avec les gens. On voit bien ce qui se passe dans certaines communes où par exemple les municipalités ont pris à bras le corps le problème de l'épandage des pesticides en bordure des zones à la fois cultivées et des zones d'habitation. Il faut dialoguer. On voit bien très bien que le monde agricole, là on en parle en ce moment avec le salon de l'agriculture, on voit très bien que le monde agricole évolue. D'abord, le monde agricole c'est pas un monde, c'est une galaxie. On peut pas comparer un petit agriculteur bio, un maraîcher bio et puis un type qui a 200 hectares de blé ou de, on va dire, en Picardie, on va dire, de betteraves ou de pommes de terre. Mais tous vont vers des destinations. Alors il y a ceux qui sont très en avance, on va dire, pour nous, écolos, c'est-à-dire qui sont passés en permaculture, plus aucun produit de traitement, sélection de variétés locales et autres. Et puis, ben, très loin derrière, on va dire, alors, vaut par rapport à notre présentation, des gens qui sont des très gros cultivateurs, qui épandent beaucoup de produits. Mais en fait, quand on discute avec eux, tout le monde est en marche. Ils savent très bien que le contexte n'est plus favorable, les nappes phréatiques sont souvent pollués. L'opinion publique s'émeut à la fois du traitement infligé aux animaux d'élevage, s'émeut des produits de traitement qu'on retrouve dans l'alimentation, des maladies qui commencent à être connotées avec ces produits. Donc les agriculteurs n'ont plus envie de... On parle maintenant d'agribashing, mais en fait c'est surtout un mouvement de
prise de conscience,
de prise de conscience qui fait que tout le monde avance. Les consommateurs, les agriculteurs, ils avancent plus ou moins vite, selon les agriculteurs. Mais pour en revenir à notre ami Geoffroy Devry, c'est très intéressant les discussions qu'on peut avoir. Il est évident que sur certains points, on aura sans doute encore des difficultés. Mais au moins, le fait d'échanger sans se prendre le bec, de dire voilà, on en est là, où est-ce que tu peux aller un peu plus loin. Et ça, c'est vraiment très enrichissant. C'est le sentiment que j'ai d'ailleurs dans l'ensemble de la liste, c'est que ce sont des gens qui, qu'ils aient ou non une étiquette politique qu'ils ont mise de côté, ou que ce soit des gens tout simplement issus de la société civile, il y a vraiment un dialogue qui pour l'instant est vraiment intéressant.
Comment ça va se passer du coup, les prises de décision, elles se prennent en commission et ensuite c'est voté au conseil municipal, ou est-ce que vous pourrez par exemple ne pas voter des certaines propositions en conseil municipal?
Alors là, c'est le genre de question à laquelle je ne réponds pratiquement jamais, parce que je peux dire toutes les positions radicales ou au contraire participatives maintenant, et en fait quand je serai placé, si nous sommes élus dans les circonstances actuelles, je peux très bien adopter une position différente. Ce que je souhaite bien sûr, c'est que le dialogue continue à se poursuivre. Après, est-ce que nous arriverons, c'est ce que nous souhaitons bien sûr tous, l'ambiance, il faut dire que l'ambiance, c'est ce qui a été, tout le monde, les journalistes qui nous rencontrent, les gens qui nous rencontrent disent, il y a une bonne ambiance, vous savez rire, vous savez plaisanter, vous vous entendez très bien entre vous.
C'est dynamique.
Et là où Daniel Leca a eu l'intelligence et l'habileté d'agir, c'est qu'il a réuni les gens très tôt. Depuis déjà un an, nous, un petit peu moins en ce qui concerne les écologistes, mais au moins 6 mois, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, bien sûr entre nous, les socialistes, écologistes, mais aussi avec les autres de la liste. Ce qui fait qu'on se connaît, on a travaillé ensemble, on se donne des coups d'œil. Ce matin, on était environ pas loin d'une dizaine à distribuer à la gare des tracts, et donc de tous bords. Donc ces échanges font qu'on se connaît un petit peu, qu'on se respecte. Donc on peut présager, pour en revenir à la question que vous avez posée, on peut présager que la suite des opérations, si nous sommes élus, continuera autour d'échanges. Puisque c'est ce que Daniel Leca a initié et souhaite poursuivre. Échanges à l'intérieur du conseil municipal, mais aussi nous souhaitons que les nombreuses personnes qui nous ont soutenus, qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu figurer sur la liste, soient encore non seulement des courroies de transmission, ce qui n'est pas très gentil pour les courroies, mais soient des gens qui continuent à apporter quelque chose, nous demandent des comptes, et que cette dynamique enrichissante et tolérante se poursuive.
Pour les sujets un peu clivants, comme la chasse à courre, on sait que François Varlet est plutôt pour, hein, puisque je crois qu'il participe d'ailleurs aux chasses à courre. Comment ça va se passer? Vous avez déjà discuté avec lui, ce genre de... Parce que souvent, les militants de la gauche vont venir vous voir en vous disant « Oui, mais quand même, il y a La République en marche, ils vont être pour la chasse à courre. » Comment ça se passe? Vous avez déjà un peu désamorcé ces sujets sensibles?
Alors, ce qu'on souhaite déjà, c'est que... Au départ, qu'il y a des politiques locales, c'est pas pour mettre de côté le problème de la chasse à courre, c'est un problème qui est très important, c'est comme la corrida dans le sud de la France, ça tient aussi dans l'esprit du public, le respect de l'animal, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Personnellement, je considère qu'il y a tellement de problèmes à résoudre que vont nous laisser l'équipe Marini, notamment des classes, des salles de classe. Vous pouvez demander à des directeurs d'école ou des directrices. Il y a des classes qui sont en mauvais état. Il y a des sanitaires qui sont dans des états déplorables. Maintenant, il y a certaines chaussées. Si vous baladez en Compiègne, il y a des chaussées qui sont en mauvais état. Donc, nous allons déjà avoir, si nous sommes élus, un gros travail de remise en état. Donc, je ne souhaite pas mettre à nouveau le problème de la chasse à courre, mais qui est d'abord un problème qui n'est pas inhérent, enfin, ça n'est pas directement la ville de Compiègne qui est concernée. Donc, c'est vrai que nous avons sans doute... pour en revenir à François Varlet, je crois qu'il ne participe plus aux chasses à courre, mais il l'a fait, paraît-il. Donc, c'est évidemment un point de clivage, mais qui ne me paraît pas être une raison pour que nous ayons un blocage au sein du conseil municipal, puisque la chasse à courre n'est pas le fait de la ville de Compiègne, elle est faite de l'ONF et des équipages de chasse à courre, donc ça ne me paraît pas être un problème majeur.
La mairie peut plutôt mettre des blocages, ou comme elle a pu le faire notamment avec les anciennes manifestations, ils avaient refusé certains parcours, etc. Voilà, c'est soit sans prendre part à 100%, être pour ou contre la chasse à courre, on peut donner des facilités pour les organisations.
Oui,
de, voilà.
Mais à nouveau, très peu, parce que en fait, c'est essentiel. Ce que je dis, c'est que c'est la fête de l'ONF et de la... À part une interdiction de poursuite de la chasse à courre, mais on imagine mal une chasse à courre poursuivre un cerf, comme ils le font souvent, de façon sont parfois illégales
dans les villages.
On imagine mal quand même une poursuite de chasse à cour dans les rues de Compiègne. Mmh. Et en dehors de ça, le maire et les équipages de chasse à cour n'ont pas grand-chose à voir. Alors, ce sera peut-être l'objet de discussions qui ne seront pas forcément simples avec des gens comme François Varlet, mais à mon avis, à nouveau, je ne souhaite pas présager de l'avenir. Je ne sais pas comment ça se passera, mais il y a tellement de sujets beaucoup plus majeurs, comme là, tout à l'heure, on a regardé une vidéo sur la question des quartiers dits sensibles. Je pense que les quartiers sensibles, pour eux, la chasse à cour, ce n'est pas non plus un problème majeur par rapport notamment à la drogue, à l'exclusion des jeunes, au chômage des jeunes. Donc, ça ne me paraît pas à nouveau être un problème qui devrait nous préoccuper beaucoup
mais,
au sein
mais,
du
mais
conseil.
Mais souvent, c'est les abstentionnistes, en fait. Les gens des quartiers, là, les gens qui ne travaillent pas ou qui sont au chômage, souvent, c'est la population qu'il faut faire sortir pour venir voter. Quoi.
Bien sûr. Alors, d'une part, il y a une certaine clientélisme qu'a développé l'équipe Marigny dans un certain nombre de ces quartiers, ce qui est d'ailleurs assez dommage parce que, du coup, on s'éloigne de la véritable politique. En même temps, je pense que c'est une politique qui a été voulue en partie, c'est-à-dire de sectoriser, de diviser la ville de Compiègne en secteurs différents, en quartiers différents qui finalement ne se fréquentent pas beaucoup. Ce qui est quand même un peu, à mon avis, l'opposé de la véritable démocratie locale. C'est-à-dire que la ville est à tout le monde doit pouvoir y circuler, tout le monde doit avoir le plaisir de pouvoir y circuler et l'intérêt d'y circuler. Donc si nous sommes élus, je pense qu'une de nos préoccupations sera justement de nouveau, alors j'allais dire de réunir les quartiers, c'est un vaste programme, mais au moins de faire en sorte que des quartiers comme les quartiers dits sensibles ne se sentent plus exclus, que les jeunes de ces quartiers-là puissent venir en centre-ville sans avoir l'air d'être regardés de travers, comme des délinquants, surtout qu'en plus, c'est souvent la délinquance ou autre, est souvent le fait d'une minorité. Il y a beaucoup de jeunes et de parents de jeunes qui regrettent cette image. Vous savez, une fois, il y a un jeune dans ces quartiers-là qui m'avait dit: moi, monsieur, j'ai deux tares quand je présente, enfin deux tares, deux inconvénients majeurs quand je présente un CV. Je suis noir et j'habite le Clos des Roses. Donc, c'est dire l'image que peuvent donner pour un gamin qui cherchait du travail, qui avait une qualification. Donc, c'est sur tout ce travail-là qu'il faut aller. Il faut aller à la rencontre des gens, ce que ne fait pas forcément M. Marigny à longueur d'année. J'ai par exemple, je vous donne un exemple. Nous sommes allés à plusieurs à la fête qui était organisée par les habitants du Clos des Roses sur la fin du Ramadan. Une fête très, très gentille avec de la nourriture, de la musique.
De la fraternité.
Voilà, donc c'était vraiment très sympa, pas de problème, n'importe qui pouvait circuler, tout était au contraire, il y avait de la nourriture en abondance qui était offerte. On a vu effectivement M. Marigny arriver, on a vu son agent local Oumarba, mais en dehors de ça, aucun des conseillers municipaux, ils sont quand même, je sais plus, une trentaine, présents sur le terrain. Donc c'est le fief de M. Marigny, ça n'est pas le fief de la municipalité, encore moins celui de la population. L'idéal, à mon avis, dans un cas comme ça, c'est de non seulement d'emmener les conseillers municipaux, mais de faire en sorte qu'une partie de la municipalité, et inversement, d'avoir d'autres occasions où des habitants du Clos des Roses seront conviés à... Nous, on a imaginé, par exemple, que des jeunes, par exemple, du Clos des Roses, de la Victoire, peu importe, Bélicard, soient amenés, par exemple, à des musiciens à venir donner des obades, des concerts en centre-ville. Les gens du centre-ville ou des avenues, par exemple, le triangle d'or dans lequel se situe, habite M. Marigny, pourrait avoir une aubade de musiciens qui soient de toutes couleurs, blancs, noirs, basanés et tout. Ça changerait peut-être un peu l'image des... On peut imaginer. Vous savez, souvent, la politique, c'est plus une question d'imagination que d'argent.
Là, dans le reportage de LCP, justement, le directeur d'une école dans le Clos des Roses dit que les élèves étaient très fiers d'avoir pu lire un texte pendant les commémorations de 14-18. Donc voilà, il faut vraiment créer des synergies de rencontres.
Oui, oui.
Daniel Leca, d'ailleurs, il a annoncé pendant la présentation des listes, il a dit qu'en gros, les candidats, enfin pas les candidats, mais les élus des quartiers ne seront pas élus dans leur quartier, ils iront dans les autres quartiers.
Vous avez bien noté, c'est vrai. Il faudra tourner. Et c'est bien sûr pour de telle façon que tous les élus, quels qu'ils soient, aille à la rencontre des habitants, soit des témoins, aussi de faire descendre et remonter des informations, bien sûr, c'est évident. Et cette image, justement, devrait... Enfin, cet ensemble de... Daniel Leca a très bien dit qu'il est indispensable qu'il y ait l'autorité. On ne peut pas, il faut des policiers, il faut des caméras, tout ce qu'on veut, mais il ne faut de l'autorité que si, en parallèle, en même temps, il y a des actions sociales, des actions de revitalisation de ces quartiers. Il faut à la fois, bien sûr, rassurer les gens, y compris les gens, beaucoup de gens du Clos des Roses, qui ont besoin de cette autorité, cette présence de policiers, d'encadrement, de conseillers municipaux, qui sont aussi des représentants de la démocratie locale, et puis aussi, en même temps, des activités sociales, des animations, une participation, pour que il faut que, au fond, ce qui serait génial, ce serait que les habitants, on va pas dire toujours le Clos des Roses, la Victoire, des quartiers différents, aient une fierté d'être, que ce ne soit plus, tout à l'heure on a vu dans le reportage qu'il y en a qui n'osent pas dire qu'ils sont du Clos, ils sont d'un quartier voisin, etc. Au contraire, qu'on arrive à avoir des gens qui soient fiers d'un quartier parce que leur quartier est fleuri ou parce qu'on y joue de la musique, parce qu'on sait y jouer du ballon, faire du handball, en plein air,
c'est souvent le cas,
inviter des gamins.
Souvent dans le hip-hop, dans le rap, souvent
tout à fait.
On représente son quartier. Hein,
bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire, j'ai rencontré il y a longtemps de ça, dans une manifestation écolo, un sculpteur sur bois qui était. Il nous avait expliqué qu'il avait travaillé à l'étranger, notamment aux États-Unis, avec un. Il faisait amener la municipalité faisait amener une énorme bille de bois en plein milieu d'un quartier sensible, et le sculpteur s'installait tout seul devant la bille de bois sur une place un peu fréquentée et commençait à sculpter sa bille de bois. Puis évidemment, les premiers à s'approcher, en général, c'était les gamins. Et il proposait aux gamins d'avoir un projet, de se mettre à sculpter avec lui. Et petit à petit, cette sculpture devenait le fait du quartier. Et de plus en plus de gens venaient travailler. Et à la fin, la sculpture était la sculpture qui avait été réalisée par les habitants du quartier. J'ai un autre exemple. Quand une ville, à Compiègne, l'avait fait un tout petit peu sur un seul abribus, à ma connaissance. Un abribus qui a été graffé par des gamins du quartier.
Avec Anastasia. Ouais.
Avec Anastasia, l'abribus, il n'a jamais été dégradé. Dans le petit village que je fréquente de temps en temps à Tracy, c'est la même chose. Les abribus étaient tagués auparavant, ils ne le sont plus parce que ce sont des gamins du village qui ont été le graffer.
Toujours avec Anastasia en plus.
Toujours avec Anastasia, qui est une fille super. Et donc ce sont des gens... Et là, si je puis me permettre, on va glisser sur la notion d'artiste. Pour un certain nombre d'entre nous, les arts, on va dire en général, la musique, par exemple le graphe, la peinture, la sculpture, ce sont des éléments de vitalité qui nous éloignent un petit peu du numérique, qui peuvent être couplés avec le numérique, mais qui peuvent être un élément de dynamisme et de réunion justement des quartiers autour d'un projet. Par exemple, ça peut être un projet, mais quand même numérique, vous êtes bien placé pour le savoir, mais ça peut être un projet de peinture, de graphe, de hip-hop, de démonstration, pour faire en sorte que tous ces arts-là puissent être... tous les gamins, on va dire les gamins, mais les adultes, bien sûr, puissent s'en emparer. Que la musique classique, par exemple, ne soit pas l'apanage des bourgeois ou des bons bourgeois, et puis le hip-hop, celui des quartiers difficiles. Il faut mixer.
On va faire une courte pause musicale avec un titre extrait de l'album de Biche, et Biche sera en concert, ce sera ce week-end, ça sera au Caméléon à Conchy-les-Pots, on se retrouve juste après. On parlera toujours des élections municipales compiénoises avec Préparons l'avenir de Compiègne tous ensemble, la liste Pacte. ce week-end, ça sera donc à Conchilepo. À Conchilepo, c'est au Caméléon. Et également ce week-end, il y aura la Compiègne Geek Convention le 29 et le 1er mars au Tigre à Marny-les-Compiègne. Toutes les informations, vous les retrouvez sur le www.compiègne-geek-convention.fr. Vous retrouverez Mathéo et son équipe pour une émission en direct. On vous a offert des places, donc j'espère que vous nous envoyez des petites photos sur la page Facebook de la radio. Également, il y a la Compiègne en Lumière qui va être samedi. On va avoir des invités dès demain matin pour la matinale de demain matin. Et on est toujours en compagnie de Bruno Guimin pour parler des élections municipales à Compiègne. Bruno, on va revenir un petit peu sur votre parcours. C'est quoi votre parcours de travail, de vie quotidienne ? Vous étiez quoi à la base ?
Alors, professionnellement, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai eu différentes casquettes. On va dire que ce que je mets en avant, en tout cas dans le cadre de la liste PACTE, au point de vue professionnel, c'est les quelques 10 années que j'ai passées dans l'administration préfectorale. Je m'occupais des relations avec les collectivités locales et j'ai eu la chance de travailler notamment avec une dame dont je souhaite lui rendre hommage. Elle est toujours en vie, heureusement. Elle s'appelle Maryse Giraud. Elle était secrétaire en chef de la sous-préfecture de Compiègne et c'était quelqu'un qui m'a appris en fait à apprécier vraiment le service public. J'ai appris donc justement à travailler avec les collectivités locales dans une espèce de forme de respect, d'information. J'ai vu ce que représentait le travail d'un élu, du côté, bien sûr, du côté préfectoral, l'application de la loi, la façon de l'appliquer parfois de façon assez souple, assez compréhensive. Et de ce point de vue-là, du point de vue professionnel, ça m'a beaucoup enrichi. C'est une tranche de vie qui me sert maintenant, parce que je considère toujours que le service public, parfois il arrive qu'on raille les fonctionnaires, entre guillemets, mais moi j'ai pu me rendre compte, en tout cas dans l'établissement que j'ai fréquenté, que les gens faisaient du bon boulot, ils étaient dévoués, ils étaient attentifs aux besoins des maires et des secrétaires de mairie qui venaient nous voir, et ça c'est un enrichissement que j'ai gardé longtemps dans ma vie.
Une question que j'ai posée à Sophie Schwartz hier, est-ce que vous avez des prétentions pour les départementales ? Est-ce qu'avec la liste, vous pensez déjà à placer des pions au départemental ? Au régional, il y a votre femme qui est décédée aujourd'hui, elle était justement élue à la région. Oui. Du coup, est-ce que déjà vous réfléchissez à ça ? Est-ce que pas du tout ?
Alors, absolument pas. D'abord parce que j'ai quand même un certain âge, hein, je ne le cache pas, j'ai 67 ans. Donc déjà, si je suis élu, je ferai un mandat au municipal. En plus, chez Europe Écologie Les Verts, en général, on n'est pas trop pour le cumul des mandats. Je sais que nous aurons, si nous sommes élus, comme je le disais tout à l'heure, nous aurons sans doute beaucoup de travail, puisque notre façon de travailler sera forcément très différente de celle de M. Marigny. Il y aura beaucoup plus d'implication des conseillers municipaux et bien sûr des adjoints. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense, je ne peux pas m'exprimer pour mes collègues, mais je pense que peu, en tout cas, auront des ambitions autres que celles d'être au service des Compiègnois.
Souvent, quand je pose cette question, c'est parce que souvent, c'est des leviers de pression ou de, voilà, des leviers, dès qu'on a un échelon supérieur, pour être dans des commissions, pour avoir des subventions pour la ville. On a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets que Marigny se réclame d'avoir mis en place qui, finalement, sont payés par la région ou sont payés par l'État. Oui. Donc c'est pour ça, en fait, c'était souvent cette question,
Bien sûr, vous avez, finalement, c'est un peu une partie, j'allais dire vicieuse, c'est peut-être un peu excessif, mais une déformation, on va dire, de la démocratie, parce que ce fameux millefeuille administratif dont on parle souvent et qu'on critique souvent à raison, fait que l'émiettement des demandes de subventions fait qu'effectivement, on aime bien avoir un pion à l'échelon supérieur qui va vous aider à
apporter
le projet. Ceci dit, par rapport à une époque où la question politique importait beaucoup dans les attributions de subventions, moi j'ai le sentiment que maintenant ça a quand même changé un petit peu et que, notamment avec les relais des agglomérations, ou des syndicats de communes, on a quand même un relais assez puissant déjà à ce niveau-là. Or, ici, les élus de la commune de Compiègne sont presque automatiquement élus à l'ARC, à l'agglomération de Compiègne. Et déjà, c'est une structure suffisamment puissante pour éventuellement se dispenser d'avoir des relais au-dessus. Ceci dit, je ne me prononce pas à nouveau pour certains de mes collègues qui peut-être auront des ambitions à ce stade-là, mais je pense quand même que déjà, là, quand nous sommes... Compiègne est quand même une commune, même si c'est une commune moyenne, avec l'ARC, elle représente quand même une puissance, avec des services compétents, avec de nombreux élus qui travaillent ensemble. C'est déjà une lourde tâche et je ne crois pas que les uns ou les autres nous ayons des ambitions, pour l'instant en tout cas au stade où nous en sommes. Vous savez, en plus on a quand même un peu la tête dans le guidon avec un gros travail sur le terrain, de rencontres avec les gens. Daniel Leca a participé, je crois, presque 90 apéritifs rencontres en appartement, ce qui est très enrichissant pour lui et pour les gens qu'il rencontre. Il y a eu de nombreuses réunions publiques qui ont drainé beaucoup de Compiègnois curieux de le rencontrer. Donc, pour l'instant, on ne songe pas à un avenir aussi lointain, qui pourtant est relativement proche que les départementales, par exemple.
Là, pour le moment, Daniel Leca, de toute façon, a un certain réseau, puisqu'il est conseiller municipal donc à la région Hauts-de-France.
Régional
à la région Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand. Donc, déjà, un réseau un peu établi.
Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, là, il l'est encore pour jusqu'aux prochaines régionales. Il lui appartiendra ensuite de voir s'il souhaite se présenter à nouveau en tant que conseiller régional. Effectivement, au stade où il en est, il estime qu'il lui est plus facile de gérer des dossiers ou d'aider des dossiers de la région de Compiègne, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs en toute impartialité, bien qu'il ne soit pas du bord de M. Marigny. Il a aidé des dossiers compiègnois parce que son intérêt, son affection, elle va aux Compiègnois et pas spécialement, enfin, à la ville et pas spécialement à Monsieur Marigny. C'est un phénomène, je crois que je le disais tout à l'heure, qu'on rencontre de plus en plus. C'est quand même une forme d'impartialité et que les options politiques ne peuvent jouer de plus en plus qu'à la marge.
Alors il y a quelque chose qui nous a un peu étonné, notamment avec les journalistes de la PQR, c'est que tous les sujets dont on pose des questions à Daniel Leca, il y a toujours une réponse, et il y a toujours une réponse construite et travaillée. C'est comment ça se passe? Vous le travaillez en commun avec, ou c'est vraiment lui qui réfléchit à tout ça? Ou est-ce qu'il y a des travaux de groupe qui sont faits en interne?
Les deux, en fait. Il a eu ce courage, cette force. D'ailleurs, il a maigri au fur et à mesure, on l'a vu maigrir. Il est temps que la campagne s'arrête, parce qu'il en restera bientôt plus rien. Parce qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps à la rencontre des gens. Il a fait un travail énorme de rencontre, notamment des associations, puisqu'il fait souvent remarquer que les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives, de notre ville, sont des éléments essentiels au fonctionnement de la ville, même si ce ne sont pas les seuls. Donc, il a fait beaucoup de rencontres. Je parlais tout à l'heure des apéritifs en appartement, enfin des apéritifs ou des cafés ou des soirées en appartement. Donc vous pensez bien qu'il a pu drainer, il a une excellente mémoire et des gens et des faits. Donc il s'est construit une représentation de la ville et surtout de ses besoins. Mais parallèlement, chacun d'entre nous dans notre petit groupe, on va dire socialiste, vert, on a fait un gros travail de collation sur des événements, enfin, ou des faits compiègnois, sur des exemples. Tout à l'heure, je parlais de villes comme Grenoble, bon, beaucoup plus grosses, mais où, par exemple, il y a des avancées très importantes qui ont été obtenues en matière de développement durable. Donc, chacun, dans ses petits groupes, plus ou moins formels, ont planché sur la question. Et le programme qui va sortir dans quelques jours est la synthèse à la fois des rencontres de Daniel avec la population compiègnoise, mais aussi il a tout à fait tenu compte des demandes ou des suggestions que nous pouvions faire. Ça va faire un pavé, si j'ose dire, en parlant de Compiègne, c'est un peu local, c'est un peu adéquat. Ça va faire un journal qui aura une vingtaine de pages et qui sera distribué à tous les Compiègnois, bien sûr.
Quels sont les projets que vous avez ramenés en tant qu'écologiste et qui sont un peu intransigeants par rapport aux négociations que vous avez eues?
Alors, ce qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, finalement, ce n'ont pas été réellement des négociations. Il faut dire que des gens comme Daniel, qui ont, il doit avoir 34 ans, François Varlet, qui est son directeur de campagne, doit avoir à peu près le même âge, Anne-Sophie Palamassoni, qui l'aide beaucoup aussi, est une jeune. Il a autour de lui des gens jeunes qui ont
Justine
été...
Justine Coutard également
Oui, ce sont des gens qui ont été élevés avec les... enfin, élevé avec l'écologie. J'ai bien vu, moi, dans les livres de classe de mon fils, d'année en année, c'était il y a déjà quelques années, mais je voyais bien que l'écologie prenait une place grandissante. Après, il y a les médias, ce sont des gens qui, qu'ils le veuillent ou non, ils ont été quand même imprégnés d'un certain nombre de caractéristiques de l'écologie, des périls, de la nécessité du développement durable, qui est assis à la fois sur l'écologie, l'économie et le social. Donc, ce sont des gens qui ont déjà une partie de... C'est pour ça que l'écologie, pour eux, elle est assez facilement transversale, parce qu'elle touche tout, elle doit toucher tous les domaines. Donc, mes amis écologistes et moi-même, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons rejoint cette liste. Je reviens un petit peu à la question que vous m'avez posée en ce qui concerne mon parcours, puisque je vous avais déjà expliqué que nous, dans les années 80, l'association Compiègne écologique, j'avais contribué à fonder, avait... avait organisé beaucoup de manifestations qui étaient en lien avec l'écologie. À l'époque, la municipalité n'avait que très peu, nous avons très peu d'écho dans la municipalité. Et je vois bien qu'avec des gens plus jeunes, quand on parle de cantines scolaires à passer en nourriture bio, locale, c'est presque une évidence pour eux. Donc on n'a pas beaucoup à appuyer sur le champignon, à menacer, à dire, enfin, etc. On le fait très peu, puisque en fait, ce dialogue que nous avons engagé, il est relativement simple. Les pistes cyclables, vous prenez par exemple quelqu'un comme Étienne Diot, qui a quitté récemment la liste de M. Marigny parce qu'il saturait, il sentait bien qu'il n'était plus à sa place. Étienne Diot, que j'apprends à connaître, est un cycliste. Il vient aux réunions en vélo, mais pas parce que pour montrer qu'il est un cycliste, parce qu'apparemment il pratique le vélo au jour le jour. Donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus sensible à la nécessité des pistes cyclables, à des garages, du garage sécurisé pour les vélos, que quelqu'un qui est plus âgé. Je ne stigmatise pas non plus nos aînés, mais c'est qu'en fait, lui a déjà eu cette culture écologie. Alors je ne vous dis pas que tout est rose, que nous sommes d'accord sur 100% des points, mais vous verrez dans le programme que nos propositions ont rencontré finalement d'accueil favorable qu'il a été naturel qu'elle soit transversale. Donc je vous ai cité le vélo par exemple, les cantines scolaires, la nourriture des personnes qui sont dépendantes. Alors ça veut dire les cantines scolaires, ça peut vouloir dire les repas qui sont servis aux personnes âgées, ça peut vouloir dire les repas des hôpitaux, même si la ville n'est pas directement impliquée dans les repas des hôpitaux, ça veut dire pouvoir proposer des nourritures bio, locales, éventuellement cuisinées en local, en principe déjà avant tout aux personnes dépendantes, celles qui ne peuvent pas cuisiner elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment... Donc voilà un point qui, pour nous, est très important et qui, en fait, n'a pas eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le programme. L'écoute, elle était là.
Dans les années 90, les écologistes étaient un peu marginaux, un petit peu des idéalistes. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le problème est devant nous, le mur est devant nous. Si on n'est même pas encore dedans, on ne le sait pas encore. Et du coup, il y a vraiment un fossé de génération entre les baby-boomers et puis la génération des années 90-2000.
Oui, enfin, il faut, à nouveau, il ne faut pas généraliser. En fait, vous allez trouver des gens d'un certain âge et qui vont être écologiques, tout simplement parce que c'est par exemple des gens qui ont vécu à la campagne, qui ont connu la campagne d'autrefois, celle où on chauffait une pièce, la cuisine en général, et puis on chauffait par les autres pièces parce qu'on n'avait pas de quoi, assez de bois pour se chauffer. Des gens qui cultivaient leur jardin, mais pas que. Vous avez bien sûr aussi des personnes d'un certain âge qui sont très conscientes des nécessités. Mais c'est vrai qu'en général, quand on rencontre une génération, on va dire bobo, entre 25 et enfin, même pas, il y a cette tranche-là, et puis il y a les jeunes, en fait, pour lesquels, alors les tout jeunes, vous avez, par exemple, c'est assez marquant que vous discutez, par exemple, avec des jeunes filles. J'ai remarqué souvent, il n'y a pas que, mais souvent des jeunes filles qui sont devenues véganes en quelques mois de temps, entraînant d'ailleurs leurs parents dans la foulée, qui ne deviennent pas forcément véganes, mais végétariens ou flexitariens.
Et qui mangent moins de viande, en tout cas.
Qui mangent moins de viande, voilà, ou qui n'en mangent plus, ou qui mangent plus de tourteaux de soja, de soja, voilà, de tofu, soja transformé. Et il y a tout un mouvement de la société. C'est comme tout à l'heure, par exemple, je parlais des agriculteurs, c'est la même chose. Dans la société, on voit, selon effectivement les générations, selon les âges, il y a des accélérations, des radicalisations. Souvent, dans les jeunes, vont être plus facilement radicaux que des gens plus âgés, mais le mouvement est général. Et ça nous a rassurés, parce que je vais vous dire une chose, nous considérons comme des vieux militants, puisque c'est vrai qu'on est quand même là-dedans depuis, dans l'écologie ou dans le développement durable depuis longtemps. Et à un moment, il y a quelques années, on commençait à se sentir seul. On regardait autour de nous, puis bon, il y en avait qui partaient, qui malheureusement étaient décédés, et puis on commençait à ne pas avoir arrivé la fameuse relève dont on parle de temps en temps, et que maintenant, depuis quelques années, alors que ce soit des engagements plus ou moins sincères, ou plus ou moins radicaux, on voit bien quand même que maintenant... Alors le côté négatif, parce qu'il faut quand même aborder aussi le côté négatif, c'est que c'est vrai qu'en ce qui concerne un certain nombre d'entre nous, la collapsologie, théorie
de l'effondrement.
Théorie de l'effondrement qui a pris naissance il y a déjà un certain nombre d'années. Hein, notamment, par exemple, je me souviens du livre de Yves Cochet, qui était chez Les Verts à l'époque, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Pétrole, Apocalypse, annonçait déjà ce mouvement de l'effondrement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans la société, même sur Terre, sur le devenir de la biodiversité, sur ce que deviendront les énergies fossiles ou pas. Et pour nous, je pense que ça a été aussi un facteur pour nous inciter à rejoindre, par exemple, des listes comme celle de Daniel Leca en disant « il faut faire quelque chose ». On a vu les exemples de, moi je me souviens, Dominique Voynet, Cécile Duflo, qui, isolés au sein de gouvernements qui n'étaient pas du tout de leur bord, ont été amenés à démissionner. Nicolas Hulot a fait de même. Donc, quand on sent qu'on peut avoir, on est plusieurs à disposer d'une certaine, d'un certain engouement, d'un certain dynamisme, à posséder des idées qui, en plus, ont un écho avec les gens avec qui on négocie, cette idée de rapidité, d'instance, que l'effondrement puisse arriver, en tout cas plus vite qu'on ne croit, impose que de nombreuses mesures soient prises le plus rapidement possible, quitte à ce que toutes celles que nous souhaitons en tant qu'écologistes ne soient pas forcément tout de suite.
D'accord, de faire l'urgence maintenant.
L'urgence.
Et ensuite bâtir le reste du progrès ou de la progression. Quoi.
Alors après, bien sûr, il ne faut pas non plus se laisser endormir, il faut donner des priorités. Vous voyez, comme par exemple, je citais avec la nourriture, il y a tout un ensemble autour, reconsidérer l'agriculture sous une autre forme, redonner puissance. On le voit bien, déjà, ça se fait de plus en plus à des cultures locales, produire français. C'est un mouvement qui est en cours. Mais
manger de saison aussi. Également.
Manger de saison, des bons plats. En plus, en France, théoriquement, avec la gastronomie, relancer la gastronomie.
Mais souvent, on oublie les fruits de saison. Moi, j'ai une petite carte pour me souvenir, notamment l'hiver, où c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut manger l'hiver.
Ah bah là, on a vu arriver déjà les premières fraises. À mon avis, elles ne sont pas des fraises françaises. Hein. Les fraises, elles viennent avec tout ce que... On commence heureusement, grâce aux réseaux sociaux, on commence à voir, par exemple, en ce qui concerne les cultures en Espagne, les cultures sous serre, quels dégâts ça peut occasionner, l'état quasiment d'esclavage des populations souvent migrantes qui vont travailler là-dedans, qui vont avaler des quantités de pesticides, etc. Beaucoup de gens commencent à en être conscients et agir en fonction de ça. C'est sûr que c'est tentant, on dit dès la fin, début du printemps, de manger des bonnes fraises, mais quand on réfléchit, c'est pas forcément ni très bon. D'abord, elles n'ont pas forcément beaucoup de goût. Et puis, pour la santé des gens qui s'en occupent à la base, c'est pas terrible. Quoi.
Faites des fraises dans votre jardin, c'est facile à faire.
À cette époque, on les a pas. Mais bien sûr, mais même, il y a maintenant, vous savez, on parle de plus en plus d'agriculture urbaine. Moi, je dirais peut-être maraîchage urbain. Mais il y a maintenant des gens qui font pousser un certain nombre de petites, même sur un balcon, même en intérieur. J'ai un ami qui avait, à l'époque, je me souviens, il a fait pousser des tomates à l'intérieur de sa maison. C'était très joli. Parce que les tomates poussaient, elles ne mouraient pas pendant l'hiver, donc il y avait en permanence une espèce de plante verte qui était
parce que les tomates, en fait, à l'extérieur ça meurt, mais en fait c'est une plante perpétuelle.
Tout à fait, elles continuent à vivre en intérieur, c'est assez joli, c'est décoratif, puis on peut éventuellement récolter des tomates, pas beaucoup.
On va refaire une courte pause musicale avec Umshat avec le titre Power to the Woman on the off the morning shift, et on se retrouve juste après. C'est la matinale, on est ensemble encore pendant une petite vingtaine de minutes, et si vous avez pris l'émission en cours de route, elle est podcastable sur le www.graphite.net.
Power to the women of the morning shift. Power to the women of the morning shift.
Et voilà, de retour pour la matinale, dernière partie de la matinale, toujours avec Bruno Guillemin pour parler de cette élection municipale à Compiègne. On vous rappellera les dates des élections municipales. Peut-être que vous les connaissez par cœur. C'est quoi le premier tour ?
15 mars et deuxième tour 22.
Et évidemment, c'est élection directe. Donc en gros, les électeurs élisent une liste et ensuite la liste élit son maire.
Oui, tout à fait. Le maire et les adjoints.
N'hésitez pas, si vous n'êtes pas présent à Compiègne et que vous souhaitez voter, il y a possibilité également de déposer des procurations. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez mis en place un système d'échange entre est-ce qu'on peut vous contacter si on veut voter pour vous ?
Bien sûr, c'est sur le site internet et sur la page Facebook, bien sûr. Oui, nous avons déjà, d'ailleurs, moi par exemple, je suis porteur d'une procuration de quelqu'un que je ne connais absolument pas.
Vous aviez été élu à Tracy-le-Mont, au conseil municipal de
Tracy-le-Mont ? Oui, j'ai été élu il y a déjà maintenant. Non, ça doit faire une dizaine d'années. J'ai été élu, j'ai été adjoint. Et c'est une très bonne question que vous me posez parce que j'ai donc fait... J'étais premier adjoint du maire, un monsieur qui d'ailleurs n'est plus dans la région. Et j'ai évoqué tout à l'heure le cas de Cécile Duflot ou Dominique Voynet ou même de Nicolas Hulot. Et en fait, à mon tout petit niveau, je me suis retrouvé à peu près dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'étais très isolé. Quand je m'étais présenté, pourtant nous avions un peu travaillé ensemble, je ne m'étais pas rendu compte à quel point il y avait peu à l'époque de gens dans le conseil municipal qui avaient cette fibre écologique, cette fibre à la fois sociale, environnementale et écologique. Et je me suis retrouvé plusieurs fois en toute petite minorité, isolé, alors que j'étais premier adjoint, isolé, ce qui est au fond bien pour la démocratie, mais j'ai bien vu que dans la mesure où le maire me soutenait très peu, ou parfois n'allait pas du tout dans mon sens, j'étais amené à démissionner. J'ai donc démissionné avant la... Alors je n'ai pas démissionné en tant que conseiller municipal, parce que je pense que j'estimais que des gens avaient voté pour moi et je ne souhaitais pas les décevoir à ce point, mais j'avais démissionné de mon poste d'adjoint, parce que je voyais que je n'aboutirais pas à faire avancer suffisamment ce que j'avais avancé au départ, ce que j'avais proposé en tout cas comme mesure.
Dans un petit village, c'est quoi les principales préoccupations des habitants ? C'est l'arbre qui est mal taillé et puis les trous dans les routes, ou il y a d'autres préoccupations ?
Bon, alors ça, c'est un peu réducteur de dire ça. D'abord, parce que je ne suis plus vraiment à Tracy, mais il y a 1800 habitants, donc vous imaginez, ça fait à peu près 800 foyers. 800 foyers, c'est forcément autant de gens qui ont des opinions différentes. D'abord, il y a des gens dont on n'entend jamais parler, parce que des villages comme ceux-là sont parfois en partie des villages dortoirs, c'est-à-dire des gens qui viennent pour profiter de la campagne, mais qui en fait ne participent guère
à la
vie du village. Il y a beaucoup d'associations, c'est un village qui est quand même relativement bien équipé en associations, qui sont très dynamiques malgré tout. C'est un peu l'opposé de ce que j'ai dit précédemment, mais il y a des gens qui sont là, qui sont présents, qui sont actifs. Donc les préoccupations, bien sûr, on peut dire que je sais que j'avais quand même réussi, nous avons quand même réussi à l'époque où j'étais adjoint à supprimer les pesticides, enfin les herbicides plus exactement sur les trottoirs et autres. Et il était inévitable qu'un certain nombre de gens râleurs nous disent que très vite que la commune était sale parce que on a beau, ce qui est un paradoxe quand même, quand on habite la campagne et quand les gens voient pousser trois brins d'herbe au pied de leur mur de clôture, ils considèrent que ça fait sale. Alors, la sécurité a aussi maintenant commence à avoir une présence dans les villages. On a même eu, il y a quelques années, on a eu des voitures brûlées. Donc on n'a pas bien compris exactement pourquoi. Du coup, il y a des demandes pour des caméras de surveillance. Qui, à mon sens, je ne sais pas, je suis plutôt au courant, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont été implantées.
Non, à Tracy, il n'y a pas eu.
Voilà.
Et alors
il y a des villages voisins.
Les petits villages de l'art qui ont eu.
Et puis, il y a un village voisin, par exemple, a adopté le dispositif voisin vigilant, ce qui est toujours un petit peu ambigu. La sécurité n'est pas absente des préoccupations des gens. Après, qu'est-ce que... La vie... Non, je crois que les associations, là aussi, doivent contribuer à mettre beaucoup d'huile dans les rouages et faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est un village où il y a une très belle salle multifonction que je crois que vous connaissez un petit peu. Et la preuve, c'est que je crois que dans le village, à ma connaissance, il n'y aura qu'une seule liste, ce qui fait qu'il n'y a pas de revendication majeure ou de déception. Il y a suffisamment d'activités qui sont développées. Il y a une médiathèque qui est bien faite. Globalement, c'est le genre de village qui est assez bien géré et où les revendications des habitants ne sont pas très, très virulentes.
Souvent, c'est les revendications des maires qui veulent être plus considérées par les collectivités et par les coms de com ou ce genre de choses, quoi.
Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on voit bien la tendance, même c'est même des dispositions d'État, enfin, dispositions nationales, qui font qu'il y a un transfert petit à petit d'un certain nombre de compétences, comme je le disais tout à l'heure, des communes, surtout des petites communes, vers les communautés de communes qui ont quand même une espèce d'effet d'échelle qui fait que les communautés de communes vont disposer d'un petit peu plus de moyens financiers et humains pour gérer. Il y a des communes qui fusionnent même, hein, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive.
Là, sur l'agglo, vous avez déjà défini, est-ce que Daniel Leca va se présenter à la présidence de l'agglo ? Parce que aujourd'hui, c'est Philippe Marini qui a le poste.
Oui, c'est quand même très fréquent que le maire de la commune principale, dans la mesure où, comme je le viens de dire, il y a énormément de transferts, il y a un certain nombre de transferts de compétences qui vont des villes aux agglos.
La communication, ce genre de choses.
Voilà, c'est ça. Et puis là aussi, parfois, des équipements qui sont plus performants au niveau de l'agglo. Il est presque naturel que celui ou celle qui est maire de la commune principale devienne d'ailleurs, de toute façon, le simple fait du jeu démocratique et du jeu électoral fait que automatiquement, quand on élit un maire, on envoie en même temps à l'agglomération un certain nombre de conseillers qui vont, je crois, avoir la majorité, presque automatiquement la majorité. Donc en toute logique, et il n'y a rien d'antidémocratique au fait que le maire de la commune devienne le président de l'agglo. Après, il y a la question des adjoints qui est différente, enfin des vice-présidents. Pardon.
Vous avez rencontré justement les vice-présidents de l'agglomération. Alors pareil, leur poste va être mis en jeu, notamment à Marny-les-Compiègne, il y a plusieurs listes. Est-ce que vous avez rencontré Bernard Hélal ou les candidats qui vont peut-être lui succéder ?
Alors, moi, à titre...
La liste, en fait.
Voilà, pour la liste, non. Moi, en ce qui me concerne, non, c'est tout à fait clair. On a eu déjà, comme je le disais tout à l'heure, énormément de travail de rencontres. En ce qui concerne Daniel le cas, il faudrait lui poser la question directement parce que là, j'avoue que je n'ai pas de... Moi, j'ai eu parfois des contacts avec des gens qui étaient sur des listes d'opposition à certains maires de l'agglo que je connais personnellement, mais la démarche au sein de la liste, non, j'avoue, je n'en sais rien.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans la ville? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors déjà, il y a un site internet, c'est daniel-leca.fr. Il y a les pages Facebook, il y a les Instagram,
etc. De toute façon, si on veut simplifier, moi je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, hein, mais si on veut simplifier, on peut taper PACTE, PACTE, Compiègne, et automatiquement on aura sur le moteur de recherche, on va avoir à la fois le site internet, on va avoir également la page Facebook. Alors, vous pouvez aussi Monsieur Marini, enfin l'équipe de Monsieur Marini a un QG de campagne qui est rue Saint-Corneille, à la place d'un commerce qui n'est plus là. Bon. Et c'est un quartier général fixe. Nous avons opté pour un quartier général mobile. Alors nous l'avons appelé le Compi, c'est un petit jeu de mots par rapport au fameux combi Volkswagen des années 60-70. Le compi donc circule régulièrement. Il y a des membres de la liste qui prennent le compi, qui vont le balader. C'est un peu pour en revenir à notre programme, c'est quand même un peu ce que nous avons une préfiguration de ce que serait éventuellement une mairie mobile, puisque Daniel Leca, nous avons envisagé d'avoir une mairie mobile de telle façon que des gens qui ont plus de difficultés à venir en centre-ville puissent s'adresser à tout simplement un camion qui serait avec des employés et éventuellement un élu, enfin un adjoint. Donc voilà, donc c'est une préfiguration. Donc on emmène promener le compi. Donc vous pouvez faire signe au compi. Il y a notre tête, il y a toute la liste d'un côté, il y a la photo du candidat tête de liste de l'autre côté. Et il nous arrive souvent de nous balader en ville. Parfois on s'arrête à certains endroits pour distribuer nos tracts. Mais de toute façon, vraiment, il est très facile de nous contacter. Et puis, il reste peu de temps, mais des gens qui seraient désireux d'organiser ces apéritifs rencontres dont je parlais en appartement peuvent encore nous contacter. Daniel Leca a parfois 3 ou 4 dans la journée, mais pour l'instant il assure le boulot.
Du coup, on rappelle qu'évidemment, surtout là pour vous, si la liste doit passer, c'est surtout de faire voter les abstentionnistes. Donc, faut pas que les gens n'hésitent pas à aller voter s'ils veulent le changement. C'est vraiment le pivot un peu charnier de votre liste, c'est l'abstentionnisme.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors d'abord, bon, nous estimons quand même, nous avons eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont autrefois voté pour M. Marini et qui comprennent que un septième mandat, c'est un
mandat
de trop. Il avait
été élu avec 8000 voix là, au premier tour, aux derniers élections.
Tout à fait, mais avec surtout un très fort taux d'abstention, c'est vrai, vous l'avez noté. Donc d'une part, il y a des gens qui ont voté pour M. Marini et qui ont voté pour différentes raisons. Souvent parce que c'était des gens qui n'avaient pas trouvé une alternative. Vous savez, dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'il n'y avait pas une multiplicité de listes. Ça, c'est un phénomène. Il y a des gens qui trouvent que c'est assez, que cette espèce de dynastie, que M. Marini qui a voulu pousser sa fille à prendre sa succession, ça fait quand même un peu dynastique et antidémocratique. D'une part, et c'est vrai qu'il y a nous avons été étonnés du fort taux d'abstention pour une élection municipale, c'est assez rare, alors qu'en fait, on sait qu'au niveau des votes français, le vote municipal est un vote qui mobilise en général les électeurs. Donc nous espérons que cette liste apolitique, mais qui réunit en même temps des gens de différents bords, c'est une liste qu'elle séduira suffisamment de gens qui n'auraient pas voté et qui ont voté. Et je souhaite justement mettre l'accent sur les jeunes, parce qu'on sait bien que l'écologie a fait une notable percée au niveau des jeunes, et nous souhaitons beaucoup que les jeunes... Nous en avons rencontré. Moi, je suis toujours très touché. Après, ils votent pour qui ils veulent, bien sûr, mais je suis toujours touché de rencontrer des jeunes qui ont à peine l'âge de voter, 18, 19 ans, 20 ans, qui s'intéressent à la politique, qui, quand on distribue nos tracts, ils disent « mais on va les lire ». On les voit venir aux réunions publiques, et nous pensons que les jeunes seront séduits par... Parce que je voudrais rappeler quand même que nous sommes à nouveau des écologistes quand même un peu historiques, enfin, même si c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, et que le ralliement un peu de dernier moment, M. Marini a sorti notamment dernièrement un tract écrit...
500 000 euros pour le vélo, par exemple, chaque année.
Et voilà, écrit en vert, etc. Mais si on est plus... Bon, nous n'avons pas le temps aujourd'hui je pourrais déconstruire toute une partie des arguments qui sont avancés sur ce tract. On sent bien que c'est quand même une grande partie du greenwashing, même s'il y a peut-être certaines avancées, il ne faut pas tout rejeter, mais je voudrais dire quand même que la véritable écologie, elle est quand même au sein de notre liste.
Vérifiez également, vous pouvez vérifier sur internet si vous êtes inscrit sur la liste électorale et que vous êtes pas radié, même si vous habitez dans la même ville, et le jour J des élections, si vous avez été radié par erreur, vous pouvez vous faire réinscrire dans la journée. C'est un petit peu compliqué, un peu fastidieux, mais c'est possible. Donc vérifiez en amont que vous n'êtes pas désinscrit, par exemple si vous habitez chez vos parents ou ce genre de choses. Voilà, c'est le moment de le faire.
Vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point, parce que à nouveau, je dis, quel que soit le vote qu'on décideront de faire les jeunes ou des moins jeunes, au jour le jour, tout le monde paye des impôts, même si on est assujetti qu'à la TVA d'une baguette de pain, on paye des impôts dans une commune, et il est très important de se mêler de la vie, de prendre des positions qui seront celles que les élus porteront demain partout dans la ville.
Bruno Guillemin, merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de la liste Pacte. Donc on rappelle le nom, c'est Préparons l'avenir de Compiègne tous ensemble, porté par Daniel Lequin. Alors hier, enfin avant-hier, vous avez annoncé les candidats. J'ai pas compris du coup les numérotations. C'est pas, il n'y a pas le deuxième adjoint qui a été annoncé.
Oui,
c'est ça.
Tout à fait. C'est, on a voulu mettre Daniel Lequin et son équipe ont voulu mettre en avant des gens qui étaient connus à Compiègne, qui avaient, j'allais dire, une certaine notoriété, en tout cas, qui représentaient quelque chose, des gens qui avaient de grosses responsabilités associatives, des gens qui étaient là depuis très longtemps. Donc ça, effectivement, ce sont les numéros, 1, 2, 3, 4, 5, lui en 1, et puis après, ainsi de suite. Mais ça ne présage pas du tout de la façon dont seront répartis les adjoints. Et c'est très bien, il peut y avoir quelqu'un qui est en 20e ou en 22e place, qui, s'il est élu, pourra avoir un poste d'adjoint intéressant.
Et qui sera annoncé quand, du coup, cette...
Oh, je pense que ce sera dans une semaine à peu près, enfin très, très, très proche. La difficulté, c'était déjà, il y avait deux choses qui étaient très importantes, qui ont été faites avec beaucoup de délicatesse et de diplomatie de la part de Daniel, c'est-à-dire déjà mettre l'ordre de la liste, c'est déjà un gros travail de contacter des gens, de voir qui demande quoi ou qui est proposé à telle place. Il y a des gens, par exemple, qui ont été proposés à une place éligible, qui ont décliné parce qu'en fait, leur travail, leur responsabilité faisait qu'ils avaient trop de travail pour pouvoir prendre en charge vraiment un poste de, même un simple poste de conseiller délégué, ou même conseiller délégué. Parfois, c'est très prenant, c'est surtout avec le travail que nous aurons. Donc voilà, il y a eu ce premier travail. Le gros travail, je disais, le pavé, entre guillemets, le journal qui va sortir, qui va être notre programme, a représenté aussi un gros travail. Donc il faut présenter les choses petit à petit, et les postes éventuels d'adjoints seront présentés dans quelques jours.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Retrouvez-la en podcast sur le www.graphite.net. Également, vous pouvez suivre les informations sur la page Facebook de la radio. Également, on est dispo sur Instagram, Twitter, et puis également sur les box si vous souhaitez nous écouter un peu partout, et même sur Radio Line. On utilise Radio Line pour écouter dans la voiture. Bonne journée, merci beaucoup, merci Bruno.
Et merci à Graphite de m'avoir accueilli aujourd'hui.